journal des sciences.
Et on ouvre ce journal avec le gouvernement qui a donc annoncé cette semaine une augmentation des budgets alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'année 2018 et tout au long du quinquennat avec notamment ce grand plan d'investissement dont vous nous donnez les détails, Zoé.
Oui, puisqu'en effet, la ministre Frédérique Vidal a dévoilé hier jeudi donc son budget pour l'année 2018. Il est en hausse de 194 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et de 50 millions pour la recherche. Et elle est aussi et surtout revenue sur ce fameux grand plan d'investissement quinquennal de 56 milliards d'euros qui avait été annoncé plus tôt dans la semaine par Édouard Philippe. Et le Premier ministre avait promis à ce moment-là que sur ces fameux 56 milliards de ce plan, 8 iraient à la recherche et à l'innovation, sans qu'on sache exactement vraiment de quoi il s'agissait précisément. Alors Frédérique Vidal a quelque peu clarifié les choses hier. Sur ces 8 millions, en fait, 4 milliards et demi, iront en réalité à l'innovation.
4 millions, pas 4 milliards.
Mais non, si. Alors c'est ça qui est fou, c'est que c'est 4 milliards qui ont été, c'est quand même des grosses sommes. Et en fait, le gros de ces promesses iront à ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation, c'est quoi? Ça va être des acteurs publics, évidemment, mais surtout et aussi des acteurs privés, les entreprises, sur des secteurs comme l'intelligence artificielle, le big data, la nanotechnologie, la cybersécurité. Et Frédérique Vidal, là, l'a laissé entendre assez clairement, elle n'a pas entièrement la main sur ces crédits. Elle a confirmé, en revanche, que 3,5 milliards reviennent totalement à son ministère seul. Et voici comment elle compte les utiliser.
Le grand plan d'investissement consacre 1,550 milliards d'euros sur le quinquennat à l'enseignement supérieur. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais un point mérite d'être souligné. 450 millions d'euros seront consacrés à la transformation du premier cycle. C'est une décision forte. Je pense à l'augmentation des crédits de l'ANR, à hauteur de 32,7 millions d'euros par exemple, ou aux 25 millions d'euros qui viendront augmenter directement les moyens des laboratoires et notamment des unités mixtes de recherche. Permettez-moi de le souligner au passage, il s'agit d'une petite révolution. Non seulement nous remettons de l'argent sur l'ANR, dont le budget avait beaucoup souffert, mais nous nous refusons à opposer financement sur projet et crédit de base. Nous le savons tous, nous étions arrivés au bout d'un mouvement où les dotations des laboratoires étaient rognées année après année. Avec ce budget 2018, nous inversons la tendance et nous commençons à redonner de l'oxygène à notre recherche.
Voilà, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, et les chercheurs donc saluaient, Zoé, un signal positif de la part du gouvernement, mais comme d'habitude, ils préconisent plutôt la prudence pour le moment.
Oui, puisque le milieu de la recherche est quand même apparu soulagé. Je le rappelle tout de même, en juillet dernier, rappelez-vous, il y avait un projet de décret qui avait fuité dans la presse, dans Le Monde, qui prévoyait de couper 300 millions d'euros dans le budget de ce ministère. Inquiets, plusieurs chercheurs avaient publié une tribune, toujours dans le journal Le Monde, pour dénoncer cette possible suppression des crédits. Parmi eux, il y avait le jeune physicien Adrien Jantet, à qui j'ai demandé ce qu'il pensait de ces hausses annoncées.
On voit avec les toutes nouvelles annonces que le gouvernement a finalement décidé d'investir à nouveau dans la recherche. Il y a d'abord un bon signe, donc, qui est l'augmentation du budget de l'enseignement supérieur, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mettre ça en regard du nombre d'étudiants et de son accroissement. C'est-à-dire que cette année, on a 40 000 étudiants supplémentaires, c'était déjà le cas l'année d'avant et l'année encore avant, ce qui fait finalement que l'augmentation que propose le gouvernement aujourd'hui, elle peine en fait à compenser la stagnation des années précédentes. Et on va se retrouver avec un budget universitaire qui, en termes de dépenses par nombre d'étudiants, reste plus faible qu'en 2012. Du côté purement recherche, je pense qu'on peut se réjouir de l'augmentation du budget de l'Agence de la Recherche, en tout cas de l'attribution des crédits, et également des moyens de fonctionnement des laboratoires. Là encore, le gouvernement semble tâtonnant et on attend une politique un peu plus ambitieuse de simplification pour les chercheurs et d'attribution de crédits, non pas seulement sur des projets qui sont très consommateurs en termes de temps et de gestion, mais de plus en plus sur des crédits récurrents qui permettent aux chercheurs de voir sur le long terme.
En bref, à Lyon, un patient en état végétatif depuis 15 ans a récupéré des signes de conscience après stimulation du nerf vague.
Oui, cet homme qui a subi un accident de la route il y a 15 ans et qui était dans un état végétatif peut maintenant répondre à des demandes assez simples comme bouger la tête ou suivre un objet des yeux. Pour les chercheurs français qui ont fait cette annonce, le fait de stimuler ce fameux nerf vague qui relie le cerveau à d'autres organes majeurs du corps en envoyant des pulsions électriques permettrait de retrouver un état de de conscience minimale, thèse qui, bien sûr, doit être confirmée par de nouveaux cas.
L'École Polytechnique, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, ont lancé avant-hier une nouvelle chaire Arts et Sciences.
Ce sera la première chaire de ce type au niveau européen. Le but, faire dialoguer artistes, scientifiques et publics sur des sujets comme le langage, le temps, l'alimentation ou l'énergie. Une convention entre les deux écoles a été officiellement signée à l'Institut Pasteur mercredi par un robot.
Voilà, puis on vous renvoie à l'émission que nous y avions consacrée vendredi dernier en direct de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Le deuxième dossier cette semaine, eh bien, ce sont les deux médailles d'or du CNRS qui ont récompensé avant-hier encore mercredi les physiciens Alain Brier et Thibaud Damour pour leurs recherches pratiques et théoriques sur les ondes gravitationnelles. Joué.
Oui, rappelez-vous de ce grand moment, le 11 février 2016, les chercheurs français et américains annonçaient la première détection directe d'ondes gravitationnelles, une avancée majeure en physique qui ouvre des perspectives inouïes pour mieux comprendre l'univers, découverte qui confirme un siècle après qu'il l'ait énoncé, une prédiction d'Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale, théorie reprise et développée par le physicien Thibaud Damour dans des travaux qualifiés de visionnaires par le CNRS qui lui a donc remis cette médaille. Lui s'estime aujourd'hui très heureux et très chanceux d'avoir pu mener ses travaux à bien.
Depuis très jeune, depuis l'âge de 14 ans, j'ai été fasciné par Einstein, ses théories, ses découvertes. Très tôt, j'ai fait des calculs autour de la théorie d'Einstein et de ses dernières théories. Sans me rendre compte que, à l'époque, la plupart des gens considéraient que la théorie d'Einstein, la relativité générale, était une voie de garage parce que elle n'avait aucun lien avec le monde réel. Mais ça, je l'ignorais. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, en septembre 1974, quand je suis arrivé aux États-Unis, on a découvert les pulsars binaires et ça a été un des premiers objets du monde réel pour lequel la théorie d'Einstein est devenue très importante. Et donc, j'ai eu la chance que ce qui était pour moi une vocation, comprendre mieux la théorie d'Einstein, la développer, est devenu utile aussi pour comprendre le monde réel. Pour la médaille elle-même, le grand plaisir intellectuel, c'est que cette médaille récompense effectivement à la fois la théorie et l'expérience, parce que dans ce cadre des ondes gravitationnelles, c'est les deux ensemble qui ont conduit au succès. Et je suis très content que ça soit une recherche à long terme.
Même surprise et satisfaction chez Alain Brier, qui après sa rencontre dans les laboratoires de Meudon dans les années 70 avec Thibaud Damour, s'est battu pour pouvoir construire des instruments de recherche expérimental pour détecter ces ondes. Il est le père de l'instrument européen Virgo et qui a permis la première détection conjointe avec son équivalent américain LIGO d'ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs. C'était hier, on l'a appris hier. L'apport d'un troisième instrument est important aussi, Advanced Virgo. Il a été développé grâce aux recherches d'Alain Brier et il permet d'améliorer significativement la localisation des événements astrophysiques qui sont à l'origine de ces ondes gravitationnelles. C'est évidemment une consécration pour ce physicien qui vient tout juste de prendre sa retraite.
Ça fait plus de 35 ans que je travaille sur ce projet. J'avais l'impression de travailler sur quelque chose d'un peu fou, et d'ailleurs on me traitait de fou à l'époque. Si les choses ont réellement changé en France, c'est qu'il y a eu à la direction du CNRS des gens qui étaient visionnaires, disons, suffisamment visionnaires malgré leurs responsabilités pour encourager le financement et le départ d'une expérience qui était très risquée à l'époque parce qu'on avait peu d'informations sur l'astrophysique et les types de signaux qu'on pourrait observer un jour. Juste au moment où j'arrive à la retraite, on commence à obtenir les résultats espérés. Ça facilite le fait de prendre sa retraite.
Voilà, Alain Brier, Thibaud Damour, les deux médailles d'or du CNRS. En bref, encore Zoé, la France s'apprête à expédier son tout dernier instrument astronomique, MATISSE, au Chili.
MATISSE, qui est l'aboutissement de 15 années d'études et qui permet d'observer le ciel avec un niveau de détail inégalé dans le domaine de l'infrarouge moyen. Il va être installé donc au Chili, sur le toit de l'observatoire astronomique VLT, Very Large Telescope. Et il permettra notamment de mieux comprendre la formation de la Terre et des planètes.
Et chose assez contre-intuitive, il y a plus de glace que prévu sur Mercure.
Oui, nous le savions déjà grâce à la mission Messenger qu'il y a de l'eau qui subsiste au fond de certains grands cratères de Mercure, la planète la plus proche de notre étoile. Et de nouvelles analyses des données récoltées par la sonde suggèrent qu'il y en a aussi dans des cratères plus petits. Il y a donc plus de glace que prévu sur cette petite planète, mais on ignore toujours et encore comment elle a pu s'y former.
Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable, on va parler de la personnalité complexe des poissons.
Et oui, et d'ailleurs Nicolas, c'est une une information en soi, le poisson a une personnalité, chacun des poissons.
Je suis poisson, Zoé.
Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'il est si affirmé. Et d'ailleurs, tous ne sont pas aussi courageux et intrépides face au danger. Au sein d'une même espèce, ils ont des tempéraments de héros, parfois, et d'autres sont clairement des lâches. C'est ce que nous apprend une étude de l'université d'Exeter, où les chercheurs ont étudié une population de guppies, des petits poissons d'Amérique du Sud. En les mettant dans des situations de stress, chacun réagit différemment. Certains s'enfuient, d'autres avancent avec prudence, d'autres bravent carrément le danger. Mieux, l'opération a été répétée plusieurs fois et les réactions de chacun des poissons restent la même. Ça veut dire qu'ils sont donc effectivement comme ça, même quand on est un poisson, on ne se refait pas.